Les transporteurs des poids lourds au Bas-Congo en grève depuis le début de cette semaine. Conséquence, les opérations des dédouanements au port de Matadi sont affectées et les opérateurs économiques craignent un engorgement de ce port. Les transporteurs dénoncent les mauvaises conditions de travail et des négociations sont en cours pour décanter la situation. Des irrégularités constatées dans le paiement par voie bancaire des agents et fonctionnaires de l'État, le ministre délégué aux Finances et le vice-premier ministre en charge du budget ont fait une descente à Ecobank mardi pour tirer au clair la situation. Panorama économique, c'est l'actualité économique de la semaine, analysée et commentée par un invité. Nous recevons aujourd'hui Bienvenue Yahi, il est assistant à l'université de Mbandaka dans le département de droits économiques et sociaux. Bonjour Monsieur Yahi.
Oui, bonjour madame.
Et devant ces micros, Jocelyne Moussaoupondé et Agathe Mpona Elema pour la présentation de Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
C'est depuis lundi que les transporteurs de poids lourds qui font la ligne Kinshasa-Bas-Congo sont en grève.
La Fédération des entreprises du Congo de cette province s'oppose à la manière dont la grève a été déclenchée. Jean-Luc Bekama, porte-parole de la FEC au Bas-Congo, a indiqué mercredi à Radio Okapi que le patronat n'a pas été informé du déclenchement de cette grève. En ce moment, à l'issue de cette grève, une paralysie est observée dans les activités de dédouanement. Il s'est entretenu avec Guy Roger Nyampala, qui est l'un de nos correspondants dans le Bas-Congo.
Ce n'est même pas à démontrer. Nous sommes tous affectés, tous les secteurs au niveau du structure économique de la République, si je peux dire ainsi, est affecté dans la mesure où aujourd'hui, au niveau de la ville portuaire de Matadi, nous sommes totalement bloqués. Il n'y a aucune activité au port. Les marchandises ne sortent pas du port et que les véhicules ne peuvent plus, nous ne pouvons plus transférer les marchandises au port. Donc, le mécanisme de dédouanement est totalement bloqué.
Des manques à gagner déjà ?
Des manques à gagner très énormes, monsieur. Vous savez, en matière de dédouanement, il y a un problème de délai. Et qu'aujourd'hui, nous avons les navires qui continuent à venir. Nous avons le processus au niveau du circuit douanier qui est fait. Mais les marchandises ne sortent pas. Lorsque les marchandises ne sortent pas, c'est qu'au finish, les importateurs auront perdu du temps par rapport à la revente de leurs marchandises. Et que ça va finalement nous rattraper.
Étiez-vous informé ou notifié par rapport à cette grève, Monsieur Jean-Luc Bekama ?
En fait, au niveau de la FEC, nous n'avions pas approuvé la manière dont le syndicat FORC a déclenché ces mouvements de grève. Le droit de grève, c'est un droit légitime, reconnu et garanti par les lois de la République. Mais dans sa lettre de préavis des grèves, le syndicat FORC n'avait pas informé les patronats. Le syndicat FORC s'est adressé à l'autorité de tutelle. Alors qu'en réalité, dans cette correspondance-là, la FEC devait être informée, le patron des entreprises devait être informé, officiellement par ses préavis de grève. Bon, quand cela n'en déplaise, la grève, elle est là. Mais au niveau de Matadi, comme vous avez suivi l'action que le maire de la ville a entrepris hier, et nous louons, ça servait d'abord à calmer les esprits, mais en fait, les véritables négociations vont devoir se dérouler à Kinshasa, où se trouvent les différentes directions générales des entreprises de transport. Et qu'au moment où nous parlons, nous, au niveau de la FEC Bas-Congo, nous avons interpellé la FEC au niveau de Kinshasa, notamment l'administrateur délégué de la FEC et le président et PME et commerce de la FEC, pour que finalement, très rapidement, les contacts, tant au niveau de l'intersyndical qu'au niveau des patrons des transporteurs routiers, de sorte que très rapidement, une solution soit trouvée dans le sens de rapprocher les points de vue des uns et des autres.
Et à ces sujets, justement, une hausse de prix de produits agricoles est signalée dans la ville de Matadi et dans d'autres coins de la province du Bas-Congo.
La cause, comme on peut se l'imaginer, c'est le manque de véhicules pour évacuer les produits vers les centres urbains. La société civile de cette province lance un cri d'alarme en direction du gouvernement pour qu'enfin une solution soit trouvée, et cela dans un bref délai. Guy Roger Nyampala.
À Matadi, le sac de cossettes de manioc vendu la semaine dernière à 30 000 francs congolais coûte aujourd'hui 40 000, voire 45 000 francs congolais. Le sac de braise qui se vendait à 11 000 francs congolais se négocie à l'heure qu'il est à 15 000 francs congolais. Le bidon d'huile qui coûtait 7 000 s'achète maintenant à 10 000 francs congolais. Outre cette flambée de prix, certains aliments se raréfient dans la ville. Même chose du côté du district de Cataracte. Ibrahim Manzoukoula, membre de la société civile de ce coin du Bas-Congo, affirme que les produits agricoles pourrissent déjà dans plusieurs villages faute de moyens d'évacuation. Il ajoute également que le prix de quelques rares camions a triplé. La société civile du Bas-Congo invite donc le gouvernement central à obliger les patrons des entreprises de transporteurs routiers à répondre favorablement aux revendications de leurs agents dans un bref délai, car la survie de la population du Bas-Congo en dépend. A titre de rappel, sachez que les transporteurs routiers du Bas-Congo sont en grève depuis le lundi dernier. Ils réclament notamment l'augmentation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Matadi, Guiroje Nyampala, Radio Okapi.
Merci Guiroje Nyampala pour ce rappel. La grève de transporteurs déclenchée depuis lundi dans les Bas-Congo est une grève irrégulière. C'est du moins ce que pense la Fédération des entreprises du Congo qui joue la médiation à Kinshasa entre le patron des entreprises pointées du doigt et leur chauffeur.
La FEC estime également que les patrons qui sont membres de son organisation patronale ne sont pas concernés par les revendications des chauffeurs, mais sachons-le également, entre-temps, des négociations se poursuivent à Kinshasa avec le ministère du Travail.
Voilà, après ces longs dossiers, nous allons retrouver notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Yahi. Bienvenue. Vous êtes assistant à l'université de Mbandaka dans le département de droit économique et social et vous commentez avec nous l'actualité économique aujourd'hui. Vous venez de suivre ces dossiers sur la grève de transporteurs de poids lourds qui font la ligne Bas-Congo-Kinshasa. Ces revendications qui sont certes fondées, mais comment trouvez-vous cette manière de faire les choses? D'abord de déclencher une grève sans suivre la procédure légale et puis d'embarquer d'autres personnes qui ne sont pas concernées dans cette histoire, parce qu'il faut dire que tous les transporteurs ne subissent pas de mauvais traitements de la part de leur patron.
Le droit de grève est légitime, mais quand il concerne la grève, n'est-ce pas, de ces transporteurs, n'est-ce pas, de poids lourds, je pense que il est important, n'est-ce pas, de penser d'abord aux conséquences qu'on peut enregistrer sur la vie économique. Primo, il y a d'abord la rupture, n'est-ce pas, des denrées alimentaires sur les marchés, occasionnant ainsi la flambée des prix, alors que le pouvoir d'achat de la population n'est pas à la hauteur, comme vous le savez, de cette hausse des prix. La deuxième conséquence qu'on peut enregistrer, c'est, n'est-ce pas, un manque à gagner important pour les comptes du trésor public. Ce qui m'amène, n'est-ce pas, à inviter, n'est-ce pas, ces différentes parties concernées par ce litige, c'est-à-dire les patronats, l'association des transporteurs, la société civile, ainsi que l'État congolais représenté soit par le ministère du Travail ou par le ministère de l'économie pour que dans un bref délai qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, un dénouement heureux à cette crise qui risque, à mon avis, de paralyser les secteurs économiques.
Vous avez bien fait de vous adresser en tout cas aux décideurs, parce que nous estimons, comme nous l'avons dit tantôt, que leurs revendications sont fondées, parce que il est illogique qu'un transporteur touche à la fin du mois 55 000 francs alors qu'il nourrit toute une population et il déplace deux fois des marchandises qui vont jusqu'à 200 000 dollars américains.
Oui, madame, nous sommes en face des contrats de travail qui lie un employeur à un employé, qui en fait doit produire des faits. Il est question que l'employeur puisse tenir compte des clauses, n'est-ce pas, du contrat, qui les lie, n'est-ce pas, au transporteur. Parce que la question soulevée ici, c'est l'amélioration des conditions de travail pour les comptes des travailleurs. Les travailleurs ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, la solution à travers les négociations entre les parties, parties au contrat et exiger pour qu'on puisse trouver un dénouement heureux à la crise, parce que j'envisage la solution à l'amiable par rapport à la solution devant les cours de tribunaux. Entre-temps, parce qu'on perd du temps, il y a des conséquences sur la vie économique. J'ai relevé la hausse des prix, occasionnant ainsi des difficultés pour les consommateurs finaux, qui est marginalisé, ainsi que les marques à gagner importants pour les comptes du trésor public.
Nous allons passer à autre chose à présent. Des irrégularités ont été observées dans la paye des fonctionnaires de l'État par la voix des banques commerciales.
Le vice-premier ministre et ministre du budget, accompagné du ministre délégué aux Finances, sont descendus mardi à Ecobank, où plus de 300 agents publics attendaient encore leur salaire du mois de décembre. Ils ont eu un entretien de près d'une heure avec les responsables de la banque, avant de rencontrer les fonctionnaires présents sur place, et notre confrère Daniel Tambinzoni était de la partie.
C'est avec ce cri un peu indécis que la délégation du gouvernement est accueillie dans la grande salle au troisième niveau de l'immeuble Ecobank de Kinshasa, où s'effectue la paye. Plus de 300 personnes, hommes et femmes fatigués, attendent depuis plusieurs jours devant quatre guichets aménagés. La présence de la délégation va un peu augmenter la tension dans la salle et cet homme a difficile à communiquer avec le vice-premier ministre venu les écouter.
Le système créé est un bon système, mais ceux qui le font déplorent le retard de paiement. Le guichet est insuffisant. Comment vous pouvez comprendre, vous allez faire 4h du matin. Je me suis réveillé à 6h du matin, à 7h je suis pas dans le service. Comment faire du chef par barre comme ça, vous faites plus les gens. Mais c'est là que vous remarquez que si vous êtes arrivé, la connexion est rentrée. Avant que vous arrivez, la connexion était partie. Vous savez la connexion était partie. C'est au fin du mois de décembre. On veut la question aujourd'hui au mois de janvier. Donc nous devons prêter dans la dépense.
Interruption de la connexion Internet. Retenue des frais financiers sur le salaire, insuffisance de guichet sont autant de mots qui obstruent la paye des fonctionnaires de l'État. Une autre anomalie, c'est le fait que les comptes ne sont toujours pas approvisionnés et ceux qui se sont procurés des cartes bancaires ne savent pas s'en servir.
Les services de banque sont banques organisées. Ma personne est ma carte, il y a une banque qui sont quelque chose qui s'en va un bon goût d'immagaté. Ma carte est un bon goût. Ma soeur virait un bon goût dans ma banque, dans ma carte.
Le problème ne se situe pas au niveau du processus de paye lui-même, mais bien dans l'organisation interne de l'Ecobank à Dimoukoko Samba et sa promesse aux fonctionnaires de l'État.
Dans ce processus, il n'est pas envisagé des retenues obligatoires, dans la mesure où l'État prend en charge tous les frais financiers. Ces fonctionnaires sont devenus des clients. En tant que clients d'une banque, ils ont droit à tous les services que peut offrir la banque. Le crédit, tout comme d'autres services, une carte bancaire, c'est un service. Nous avons demandé à Ecobank de mettre fin au système de prélèvement de retenue obligatoire et d'extourner, c'est-à-dire de restituer cet argent. Maintenant, s'il y a des fonctionnaires qui veulent avoir des cartes bancaires, ils les obtiendront de manière volontaire et au prix que cela coûte.
La délégation a également annoncé que la paye du mois en cours doit commencer au plus tard le 15 janvier et que Ecobank doit faire de son mieux pour que les deux payes ne se croisent.
Monsieur, bienvenue Yahi. Je signale que vous intervenez à partir de Mbandaka, et où vous êtes assistant à l'université de Mbandaka. Vous venez de suivre ces reportages. Je sais que la même situation sur la paye des fonctionnaires par voie bancaire et même qui pose de problèmes est vécue aussi à Mbandaka. Des plaintes sont enregistrées à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans les banques commerciales. Que pensez-vous de cette initiative du gouvernement de payer les agents par voie bancaire, cette initiative qui a quand même été saluée par tout le monde, hein?
Oui, madame, je voudrais, avant d'analyser ce système de bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, par la voie bancaire, n'est-ce pas, de dire que ce système est une bonne politique, n'est-ce pas, qui a été initiée par les premiers ministres Nous appuyons parce que vous le savez, on a constaté beaucoup d'irrégularités, notamment des fraudes, détournements dans les chefs, des comptables et autres gestionnaires des services de l'État. Mmh. Et ce système vient aujourd'hui mettre fin, n'est-ce pas, à cette pratique illicite. Hein, quant à ce qui concerne sa mise en œuvre, donc la mise en œuvre de cette bancarisation, elle connaît beaucoup de problèmes sur le terrain, notamment la retenue à la source que vous avez hier relevé dans votre retenue au niveau de votre reportage au niveau de l'écobanque, mais au niveau des Mbandaka, à titre exemplatif, qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a des personnes qui sont agréées à accéder à leur salaire par faute de cartes d'identité ou bien de formalités administratives, elles sont empêchées, n'est-ce pas, d'accéder à leur salaire, ce qui cause énormément de problèmes.
Mais ils ont quand même des problèmes de sociaux.
Des problèmes sociaux au niveau des différents ménages. Quand ça concerne l'accès, n'est-ce pas, au salaire des différents agents et fonctionnaires. Mais on reconnaît d'abord que c'est une bonne politique, mais il faudrait que l'État congolais puisse mettre en place des mécanismes, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de la planification pour assurer les paiements effectifs de tous les agents et fonctionnaires de l'État, parce que la paye constitue un droit pour, n'est-ce pas, les travailleurs qui doivent assurer la charge de sa famille. Il se pose, par exemple, la province de l'Équateur ou d'autres provinces de la RDC, les problèmes de la sous-bancarisation où on est obligé, n'est-ce pas, de recourir à d'autres services, par exemple de l'ONG Caritas au Congo, pour assurer la paye des agents fonctionnaires au niveau, n'est-ce pas, des territoires, secteurs et localités, n'est-ce pas, qui compte la République démocratique du Congo, et ça pose énormément de problèmes. Il faudrait que les gouvernements centrales, n'est-ce pas, parce qu'on reconnaît que c'est une bonne politique, puissent assurer la planification et mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que cette politique puisse produire des faits, n'est-ce pas, considérables auprès de la population, qui attend le fisc que c'est 50 000, 60 000 pour assurer la prise en charge de ces différents ménages.
Voilà, vous êtes à Mbandaka où les fonctionnaires sont déjà payés par voie bancaire. Vous êtes dans la province de l'Équateur. Voyez-vous ces processus possibles dans d'autres coins de votre province?
Madame, il faut dire sûrement que c'est une politique qui est saluée et par les agents et fonctionnaires de l'État, mais également par la population, dans le sens que, aujourd'hui, par ce système, on met fin aux fraudes, n'est-ce pas, aux détournements qui ont été enregistrés dans les chefs des comptables et autres gestionnaires des services publics.
Mais il se pose effectivement un
problème de mise en application. Il y a des personnes, depuis la mise en œuvre de cette politique de la bancarisation, qui n'ont jamais accédé à leur salaire, parce que n'ayant pas ou ne disposant pas des cartes d'identité ou des formalités dans des...
Oui, mais monsieur l'assistant, la question est plutôt celle de savoir si, au vu de la situation économique, je ne sais pas, ou géographique de votre province, la province de l'Équateur, est-ce que étendre ce processus dans les coins et recoins de la province où les services de l'État sont présents et
où il y a des banques,
voilà, est-ce que c'est possible d'étendre ce processus dans tous les coins de la province?
Oui, c'est la volonté politique qui a été mise en œuvre qui doit être décrite à application. Il faudrait que le gouvernement national qui a cette initiative puisse mettre en place des mécanismes pour que si dans les territoires ou districts où les banques commerciales n'existent pas, jusqu'à l'Équateur, il n'existe que 3 banques commerciales, PMB, BIAC et BIC. Il faudrait qu'on puisse étendre donc l'exemple de ces banques dans les recoins de la province, dans les cas contraires, charger les différentes ONG comme Caritas pour assurer les paiements corrects des agents et fonctionnaires de l'État. C'est une politique qui est mise en œuvre.
On l'assistant, vous savez que...
On puisse mettre en place des mécanismes pour assurer les paiements par voie bancaire ou par ses représentants et non continuer par payer comme par le passé ou les comptables, n'est-ce pas, ainsi que les gestionnaires des services publics de l'État avaient l'habitude de détourner ou d'opérer des rétentions sur la masse salariale des agents fonctionnaires de l'État.
Oui, parce que vous savez que pour qu'une banque s'installe dans un coin, il ne suffit pas seulement que le gouvernement paye ses agents par banque, mais il faut qu'il y ait une activité économique qui assurera à cette banque la survie dans ce coin. Est-ce que à Guémena ou dans, je ne sais pas, dans tous les coins de la province, il y a suffisamment d'activités qui peuvent être attrayantes pour une banque?
Oui, à Guémena, à Badolité, à Lissala ou Bouindé et Bumba, il y a des aspects économiques. Mais la problématique se pose au niveau de l'amélioration du climat des affaires. Il faudrait que les gouvernements congolais puissent rassurer les investisseurs. Parce que ces banques commerciales sont des sociétés commerciales qui doivent venir s'installer dans un point X, mais qui ont besoin du profit.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, le tarif de consommation de l'énergie électrique fourni par la SNEL aux clients ordinaires à Kalemi, dans le nord Katanga, est revu à la hausse.
Une augmentation de 60 voire de 70% depuis le mois de décembre de l'année dernière et les clients s'en plaignent. À la SNEL, on affirme que les abonnés de Kalemi étaient prévenus de cette augmentation depuis des mois.
Plus de 160 agents de la Direction provinciale de recettes provinciale de l'Équateur, DGRPE, ont été mise en congé technique depuis mardi par note de service, soit trois quarts des effectifs.
Et pour cause, les difficultés financières que connaît actuellement cette régie, seuls 60 cadres et agents sur 220 ont été retenus pour un service minimum, mais les personnes licenciées exigent plutôt un arrêté du gouverneur de province qui les avait nommés par un premier arrêté, ainsi que leur indemnité de sortie. Selon le ministre provincial des Finances dont dépend cette régie, certains agents licenciés seront réaffectés à l'intérieur de la province et chacun pourra bénéficier de ses arriérés de primes.
Et puis pour terminer ces informations en bref, la Mining Bank of Congo est mise en dissolution forcée. Selon un communiqué de la Banque centrale du Congo, il est reproché à cette filiale du groupe russe Métropole de n'afficher aucune visibilité sur le marché bancaire congolais.
Et pour illustrer cela, à la fin de l'année 2012, la MBC était classée dernière banque du système financier congolais avec seulement 58 comptes ouverts à la clientèle, 6 ans après son agrément par la Banque centrale. Et selon l'autorité de régulation du secteur, certaines de ces transactions sont sous-traitées auprès de la concurrence. Le communiqué de la Banque centrale du Congo ajoute même que le capital social libéré par les actionnaires de la Mining Bank of Congo est indisponible et se trouve en placement à l'extérieur du pays. Toutes les injonctions de la Banque centrale à la MBC pour sortir cette dernière de cette léthargie sont demeurées lettres mortes.
Voilà, monsieur, bienvenue Yayi. Vous avez suivi toutes ces informations. Vous avez peut-être un commentaire à faire sur l'une ou l'autre information.
Je voudrais commencer par la hausse des prix au niveau de la SNEL, au niveau oui. de Kalemi. Par rapport à cette hausse des prix, il faudrait que je puisse fixer les cadres traditionnels et actuels, n'est-ce pas ? De la tarification au niveau de la Société nationale d'électricité. Par les cadres traditionnels, il faudra savoir que nous sommes dans les processus de la privatisation, n'est-ce pas, des différentes sociétés, des entreprises publiques ou des différentes sociétés commerciales en RDC. Comme vous le savez, nous venons de sortir des différentes guerres de rébellion où, par exemple, à l'est du pays, une grande partie de l'Est du pays était contrôlée par les FD Goma qui, à son niveau, dont les cadres, n'est-ce pas, de l'effort de guerre, avaient haussé les prix de l'énergie électrique au niveau de Dekivu, du Maniema, ainsi que de la province orientale. Alors qu'au niveau du bloc Ouest, les prix étaient beaucoup plus bas. L'objectif, c'était quoi? C'était pour les FD Goma de maximiser beaucoup de recettes pour, à mon avis, l'effort des guerres. Mais avec la formule 1 plus 4, il fallait uniformiser les prix, ce qui pose également des problèmes. Dans les cadres actuels, on a envisagé les processus de la privatisation, n'est-ce pas?
De la transformation des sociétés.
Transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales ou établissements ou services publics. Mais aujourd'hui, pour les cas de la SNEL, donc il faudrait que l'État congolais puisse libéraliser, n'est-ce pas, les secteurs d'énergie au secteur public, comme on l'a fait au niveau de la transformation des entreprises, où on a ouvert les portes, n'est-ce pas, aux différentes actions qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas. Il se pose, n'est-ce pas, un problème d'amélioration du climat des affaires. Les investisseurs n'ont pas confiance au Congo, on ne peut pas venir qu'au regard de l'insécurité juridique que nous connaissons, au regard de l'insécurité à l'est du pays, parce que les investissements ont peur des bruits des bottes.
Mais est-ce que
les Congolais puissent rassurer,
oui,
à mon avis, les différents investisseurs pour qu'ils puissent créer des sociétés commerciales et libéraliser les secteurs de l'énergie pour rassurer. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans la province de l'Équateur, où par exemple Agbadolité, qui est alimenté par les barrages hydroélectriques de Mobimbongo par mois, la facture est évaluée à 1800 francs congolais. Mais la population n'arrive pas à payer cette facture. Vous imaginez, madame.
Mais justement, la libéralisation du secteur de l'énergie va résoudre le problème de tarification ou de la qualité de l'énergie fournie?
Oui, le problème, c'est qu'il y a la production et la commercialisation de l'énergie électrique. Je pense que l'option prise par l'État congolais pour libéraliser les secteurs économiques est bonne. Avec l'adhésion de la RDC au traité OADA, il faudrait que on puisse laisser l'initiative au secteur privé pour organiser ce secteur. Il y aura la concurrence.
Et améliorer la qualité de service.
Un suivi effectif, contrairement aux entreprises publiques où l'État était le seul actionnaire qui a assisté impuissamment, n'est-ce pas, à la maximisation des recettes publiques. La solution, c'est de libérer effectivement les secteurs de l'énergie, les remettre au secteur commercial qui, par voie d'émulation, des concurrences pourront, n'est-ce pas, apporter un plus et soulager, n'est-ce pas, apporter une solution corrective au mot que nous connaissons aujourd'hui où il y a la hausse des prix bas, qui ne permettent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'État de maximiser des recettes pour l'amélioration des conditions de vie de la population.
Oui. Un autre dossier qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est la situation de la régie provinciale de recettes là dans la province où vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez que cette régie qui est née il y a quelques années dans un mouvement où dans toutes les provinces ces régies provinciales naissaient, qu'est-ce que cela vous fait que maintenant elle soit réduite à mettre en congé tous ses agents, à licencier ses agents et à fonctionner que sur base d'un service minimum?
Oui, merci madame, parce que je voudrais vous indiquer que nous sommes dans la décentralisation où le pouvoir central cède aux entités locales une partie de ses prérogatives. Il y a la décentralisation administrative politique, mais également il faudra une décentralisation financière pour permettre aux entités locales de fonctionner et de faire face aux différents cahiers de charges, par exemple, que la province dispose. Aujourd'hui, la province de l'Équateur a besoin de moyens pour faire face à sa politique.
Mais apparemment, cette régie provinciale a échoué.
Mais pour avoir ces moyens, il faudrait que la DGRPE, la Direction provinciale des recettes provinciales, la Direction générale des recettes provinciales de l'Équateur, puisse donner, n'est-ce pas, la province les moyens de sa politique. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Il y a les tamponnements, les manques d'expertise au sein de son personnel. Nous prenons un exemple concret qu'on vient de les soulever. Où un directeur intérimaire, chef des ressources humaines, remet en congé ou révoque plus de 160 agents sans motif valable alors que nous sommes en droit où la théorie de l'acte contraire est de mise. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui nomme et qui révoque. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre que les ministres des Finances, en dehors de la décision prise par le directeur général intérimaire de la DRGP, invitent les agents révoqués de reprendre leurs services. Mais c'est quel type d'administration qu'on assiste alors que La DGRP, c'est un organe, une régie financière qui doit donner à la province de l'Équateur les moyens de sa politique. C'est pourquoi je suppose que l'autorité provinciale doit organiser ce secteur. Il n'y a aucun fiscaliste dans ce secteur.
Voilà, et c'est donc par ici que prend fin à cette émission Panorama économique. Monsieur, bienvenue Yahi, c'était un plaisir pour nous de vous avoir comme invité à partir de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Je rappelle que vous êtes assistant à l'université de Mbandaka dans le département de droit économique et social. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous avec l'actualité économique, c'est déjà lundi à partir des 18h15, heure de Kinshasa et de Mbandaka. Panorama économique ce samedi prochain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à vous tous et bon week-end en compagnie du programme de Radio Capi.